France Inter,
première radio de France.
Vous écoutez France Inter, il est 13h. L'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Avec à la une, le dossier calédonien et les maigres espoirs de médiation. La nuit a été relativement calme sur l'ensemble du territoire, excepté dans la province nord où un homme est mort sur un barrage. À la une également, l'appel des syndicats pour lever les blocages en prison. Accord passé avec le ministère de la Justice. L'UNSA pénitentiaire est le seul de l'intersyndicale à ne pas encore avoir signé cet accord. Nous verrons pourquoi. Nous irons en Moselle, toujours en alerte rouge au cru. Et même s'il ne pleut plus, la situation reste bien compliquée ce matin. Et nous serons en ligne avec le maire de Bouzonville. L'actualité à l'étranger avec l'Ukraine qui a besoin de troupes nouvelles. Et la bande de Gaza avec une reprise des combats violents au nord de l'enclave. Enfin, ce sera ce soir la nuit des musées avec une animation originale. Vous l'entendrez dans l'un des musées du Grand Besançon. Il y aura aussi les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Sandrine a testé le béhour. Le béhour, c'est un combat médiéval en armure, 30 à 40 kilos sur le dos.
Je suis arrivée le premier jour. On m'a confié un étui, une sorte de bouclier, un casque. On m'a dit frappe ce gars devant toi.
Vous êtes dit quoi, je suis où?
Oui, au début un peu.
Et après ce journal, secret d'info, votre émission Jacques Monin, retour en EHPAD.
Eh bien, nous vous proposerons une enquête sur Orpea. 2 ans après le scandale, le groupe a changé de nom et modifié ses pratiques, mais on verra que tout est loin d'être...
À tout à l'heure, Jacques. Enfin, le temps de ce samedi, Magali Rochereau, avec un retour pluvieux au nord de la Seine.
Oui, un régime d'orage qui se généralise et des températures stables et de saison.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. En Nouvelle-Calédonie, c'est donc le premier mort en dehors de l'agglomération de Nouméa, dans la province nord. Un père de famille qui tentait de forcer un barrage est donc mort dans un échange de tirs. Il y a 2 blessés également. Il était 14h30 sur le Caillou, 5h30 ce matin, heure de Paris. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
La nuit en Nouvelle-Calédonie avait pourtant été relativement calme, sauf donc à ce point de passage.
Oui, où tout a dégénéré visiblement. Échange de tirs, donc, vous l'avez dit, entre ce père de famille accompagné de son fils, qui après avoir été bloqué une première fois, décide de revenir et de forcer un barrage pour continuer sa route. Nous sommes à Calagomène, dans un petit village de la province nord. Une fusillade éclate alors. Des témoins racontent que les protagonistes étaient alcoolisés. Bilan, 1 mort, 2 blessés, dont le fils de la victime, dans cette province du nord. Plutôt calme jusqu'ici, tenu par des indépendantistes et des militants aguerris. Quelques heures auparavant, en ce long week-end d'ascension, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, par la voix de Vaimua Muliava, appelait à l'arrêt des violences et à lever tous les barrages.
La paix, c'est pas une option, c'est un devoir. Et il s'agit pas que de politique. Il s'agit aussi de vous, notre pays, la vie est précieux. Alors, le gouvernement Mapou et les membres du gouvernement collégial y appellent tout le monde à la raison.
Et ce décès d'un père de famille porte donc le bilan des victimes à 6 morts en Nouvelle-Calédonie.
Et dans ce dossier calédonien, Laurent, il y a aussi cette tentative de lancer une médiation, mais le projet reste encore bien délicat.
Oui, la difficulté est de dessiner une mission de dialogue et de médiation qui puisse incarner sur place une forme d'apaisement et faire consensus. Les indépendantistes insistent et réclament une médiation neutre et si nécessaire avec des membres de la société civile, alors qu'à Paris, on évoque les noms d'anciens premiers ministres même du président du Sénat pour mener à bien une médiation.
Et 6 morts depuis mercredi, le couvre-feu reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie. La question se pose sur un éventuel état d'urgence. Quant à la réforme constitutionnelle qui est à l'origine de l'embrasement, eh bien elle doit encore passer devant le Congrès avant la fin juin selon Emmanuel Macron. Mais de nombreux députés réclament une pause politique. Enfin, conséquence de cette tension en Nouvelle-Calédonie, la flamme olympique ne passera pas sur le Caillou comme il était prévu le 11 juin prochain. La pluie a cessé en Moselle, situation qui s'améliore légèrement, on va le voir, mais le département reste en vigilance rouge, hein, en raison d'un risque de crue exceptionnelle des rivières. Bonjour Armel Chaban.
Bonjour.
Vous êtes
merci
le maire.
De votre invitation.
Merci d'être présent en direct sur France Inter. Vous êtes le maire de Bouzonville, hein, cette commune au cœur de la zone inondée en Moselle. Ce matin, êtes-vous encore inquiet pour les heures à venir ?
Alors, inquiet non, parce que je pense que ça n'est pas le rôle d'un élu local. Mais en tout cas, on est dans l'action et dans l'anticipation, parce que effectivement, dans l'action, il faut préserver la sécurité de nos concitoyens. C'est la première des priorités. Et puis, dans l'anticipation, parce que la crue aujourd'hui a des conséquences importantes sur la vie de nos habitants, sur la vie de la commune naturellement, puisque son accessibilité est très limitée aujourd'hui. Et puis parce que nous essayons d'anticiper le plus possible la nuit qui arrive, même si selon toute vraisemblance, eh bien, il n'aura pas plus de pluie que cela.
Oui, et après la crue de l'Agnier, hein, c'est un torrent de boue qui s'est déversé, et des inondations aussi, de l'eau de 2 mètres de hauteur parfois, dans les rues de Bouzonville en Moselle. Aviez-vous connu pareil phénomène ?
Écoutez, on avait connu des inondations, mais de cet ordre-là, clairement non, et je pense que nous pouvons qualifier ces événements d'historiques, hein, historiques de par l'ampleur, clairement, et l'intensité de ce qui s'est passé, mais aussi en termes de régularité, puisqu'il n'a cessé de pleuvoir depuis hier dans la nuit. Alors maintenant, il ne pleut plus, mais nous devons en gérer toutes les conséquences. Donc il y a eu les inondations hier, maintenant la crue qui a atteint, on va dire, une certaine stabilité, un certain plateau. Et nous avons bon espoir que nous sommes dans une décrue qui certes s'annonce très lente, mais qui quand même donne un espoir positif à nos habitants.
Hier, certaines familles ont dû quitter leur maison. Où ont-elles dormi ?
Oui, en lien avec la Croix-Rouge, en lien avec la préfecture et les sapeurs-pompiers, nous avons monté à l'école une cellule d'accueil d'urgence. Nous avons logé 4 familles. Au départ, il devait y avoir une vingtaine de personnes, notamment des écoliers, dont les parents n'avaient pas pu venir durant la journée, mais tout cela a été rétabli. Donc au final, on a eu 3-4 familles. Toutes ont pu être relogées via des relations familiales et amicales. Toute la cellule a bien joué son rôle de à la fois de médiateur mais aussi d'espace de sécurité pour les concitoyens les plus fragiles.
Avec des dégâts importants, voire irréversibles peut-être pour certaines maisons.
Alors aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire puisqu'il y a encore des rues qui sont malheureusement sous l'eau avec plus de 2 mètres d'eau. Là, nous avons plutôt géré, on va dire, les petits dégâts d'ordre matériel, à savoir le nettoyage des espaces publics. Nous sommes en train de vider les caves avec les pompes pour certains de nos concitoyens. Donc là, on est plutôt dans le court terme, dans l'urgence, et on verra ensuite.
Merci beaucoup, Armel Chaban, donc maire de Bouzonville, et on vous souhaite bon courage. Davantage de juges devront se rendre en prison pour entendre les détenus. C'est l'une des mesures du ministère de la Justice pour répondre à l'inquiétude des surveillants pénitentiaires après l'attaque mortelle d'un fourgon de transfert de détenus mardi dans l'Eure. 3 des 4 organisations de l'intersyndicale appellent désormais à lever le mouvement de blocage entamé mercredi. Les syndicats FO Justice, CGT Pénitentiaire, SPS également, tous ces 3 syndicats ont accepté de signer cet accord. L'UNSA pénitentiaire n'a pas encore validé, mais c'est une question de délai, explique Emmanuel Chambaud, le secrétaire général de l'UNSA pénitentiaire.
Le délai était trop court pour consulter la base. Beaucoup de collègues étaient encore sous le coup de l'émotion de la tragédie qui arrivait, et beaucoup de collègues étaient fatigués, car depuis cet événement dramatique, les gens se sont mobilisés des fois à 3 heures du matin devant les établissements, jusqu'à des fois tard, ou même sur certains établissements 24 heures sur 24. Donc les gens étaient partis se reposer hier soir, donc on a appelé à la suspension. On a donné 3 jours pour consulter. Au-delà de la réponse des syndicats, des magistrats, c'est surtout la réponse, moi, des personnels que je représente et qui sont sur le terrain et qui vivent cette situation au quotidien.
Je rappelle que l'attaque d'un fourgon a fait 2 morts, 3 blessés mardi dans l'Eure pour faire évader Mohamed Amra, toujours en fuite. Et des fouilles depuis ont été organisées dans la prison des Baumettes. C'est à Marseille. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Dans cette prison marseillaise, donc, une dizaine de téléphones portables ont été saisis dans les cellules de prisonniers qui sont des connaissances de Mohamed Amra ?
Oui, parce que celui qui est surnommé la mouche connaît effectivement du monde aux Baumettes.
puisqu'il y a fait un passage en 2023 et son nom était justement sorti sur les radars des enquêteurs de l'OFAST, l'Office Antistup, et son antenne à Marseille. Un enquêteur l'avait fait extraire de sa cellule pour une enquête sur le corps d'un narcotrafiquant de Dreux retrouvé calciné dans une voiture. La police judiciaire cherchait à l'époque à établir un lien entre Mohamed Amra et l'un des clans marseillais qui multipliait les règlements de compte à l'été 2022. Il y avait eu alors 16 interpellations au total. Cela fait partie des pistes explorées ces derniers jours par les enquêteurs de la PJ de Rouen, de l'Office central de lutte contre le crime organisé et donc l'antenne de l'OFAST à Marseille. On sait également qu'il y a un gros travail autour des voitures volées qui ont servi à l'évasion de Mohamed Amra. Hier soir, la chef de la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé a confirmé les auditions de plusieurs témoins, de proches de Mohamed Amra, sans donner évidemment de détails sur les résultats de la balistique ou d'éventuels prélèvements ADN retrouvés sur la scène de crime.
Voilà pour ce point sur l'enquête. Merci Emmanuel Leclerc. Le projet de loi sur la fin de vie a franchi un premier cap à l'Assemblée la nuit dernière, mais plusieurs députés et le gouvernement qui avaient préparé cette réforme ne reconnaissent plus le texte initial, car le critère selon lequel les malades doivent avoir leur pronostic vital engagé à court ou moyen terme a été remplacé par la notion de phase avancée ou terminale. La réforme de l'assurance chômage pourrait affecter jusqu'à un tiers des allocataires, information du journal Le Monde, qui s'est procuré l'étude d'impact des évolutions du régime envisagées par le gouvernement.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
En Ukraine, 10 000 personnes ont été évacuées dans la région de Kharkiv, cette deuxième ville d'Ukraine. Volodymyr Zelensky s'attend désormais à une vaste offensive russe, il le dit dans une longue interview accordée à l'AFP. Bonjour Éric Bigala.
Bonjour.
Zelensky redoute donc une large offensive sur l'est et le nord de l'Ukraine et pour répondre à cela, eh bien, il a besoin de troupes supplémentaires.
Oui, et le problème est, en fait, pendant, depuis des mois, hein, l'armée de Kiev ne dispose tout simplement pas des réserves nécessaires en hommes pour tenir un front aussi important, 1200 km dans le pays, et ce, dans la durée. Volodymyr Zelensky l'a cette fois-ci précisé.
Nous devons renflouer les réserves en personnel. Un grand nombre de brigades, des brigades existantes, sont vides. Nous devons le faire pour que les gars aient une rotation normale. Leur morale s'en trouvera améliorée. Pour cela, il faut que les réserves soient préparées.
La plupart des quelques 30 brigades ukrainiennes qui sont aujourd'hui au combat ne sont pourvues qu'à seulement 40% de l'effectif théoriquement nécessaire, selon un analyste militaire du conflit, en contact régulier avec les états-majors ukrainiens. Et le problème va en s'aggravant. Là où Kiev pouvait aligner 320 000 hommes il y a 6 mois, ils ne sont plus que 245 000 aujourd'hui. La récente loi abaissant l'âge de la conscription de 27 à 25 ans ne suffira sans doute pas à combler les manques en personnel, raison pour laquelle le président Zelensky a promulgué avant-hier une loi autorisant de recruter comme soldats des détenus de droit commun. Selon le ministre de la Justice, cela pourrait permettre de recruter jusqu'à 20 000 hommes, l'équivalent de 7 brigades d'infanterie.
Éric Bigala. Voilà quelques temps que l'on n'avait pas entendu parler de violents combats dans le nord de la bande de Gaza. Les affrontements ont repris au nord, donc, entre les forces israéliennes et les combattants du Hamas, à Jabalia précisément, qui est le plus grand des 8 camps de réfugiés de Gaza. Michel Paul.
Ce sont quelques 70 cibles dans la bande de Gaza qui ont été attaquées en moins de 24 heures, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Des combats intenses au sud de l'enclave palestinienne, l'aviation israélienne indique avoir éliminé un membre clé du djihad islamique responsable de la logistique dans le secteur de Rafah et aussi avoir découvert des caches d'armes et également des roquettes et des lanceurs. Mais c'est au nord, dans le secteur de Jabalia, que se déroulent depuis plusieurs jours les combats qui sont qualifiés par Israël des plus acharnés depuis le début de l'offensive terrestre. En janvier, l'armée israélienne avait pourtant annoncé avoir achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de l'enclave pour se concentrer désormais sur le centre et le sud. Une situation qui provoque des frictions entre les responsables de l'armée et les membres du cabinet de sécurité israélien. Et selon le journal libanais Al-Akhbar, l'Égypte envisage de rappeler son ambassadeur en Israël si les négociations pour une trêve ne reprennent pas et si l'opération à Rafah se poursuit. Jérusalem, Michel Paul, RFI, pour France Inter.
Et toujours à propos du dossier de Gaza, le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, était ce matin l'invité de France Inter. 19 de ses employés sont accusés par Israël d'être impliqués dans l'attaque du Hamas du 7 octobre. Accusation qui avait provoqué la suspension du financement des pays donateurs. Mais les dons reprennent peu à peu et l'enquête se poursuit concernant les employés mis en cause. C'est ce que précisait ce matin donc Philippe Lazzarini, le chef de l'UNRWA, invité donc de la matinale d'Inter.
Nous ne tolérons pas dans notre organisation un conflit d'intérêts où un employé aurait une activité politique publique et en même temps continue d'être un employé de l'UNRWA. Il faut faire la différence entre un comportement individuel et la politique de l'agence. Nous avons des politiques extrêmement strictes en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Nous avons également une politique extrêmement stricte avec des directives strictes en matière d'enseignement dans nos écoles. À chaque fois qu'un cas nous est rapporté, nous allons en fait ouvrir une enquête interne et suivant en fait la gravité du comportement ou de la nature en fait de la violation des règles internes, eh bien des mesures vont être prises qui peuvent aller jusqu'au licenciement.
Le chef de l'UNRWA ce matin sur Inter avec Marion Lourd et Ali Badou. En France, ce sera ce soir la 20e édition de la Nuit des Musées avec des animations parfois originales en nocturne. Exemple, dans le Grand Besançon, nous partons au musée de plein air des maisons comtoises de Nancré avec des spectateurs invités à pédaler pour produire l'énergie nécessaire à la projection de films, des courts-métrages sur un écran géant. Séance appelée Ciné-Cyclo, expliquée par Christelle Imbert, la chargée de communication de ce musée des maisons comtoises de Nancré.
Cette séance de cinéma est intégralement alimentée par l'énergie fournie par nos visiteurs qui vont servir de cyclistes pour cette soirée. C'est un vélo qui se déplace pas, hein, qui est juste à côté en fait de l'écran de cinéma, et les visiteurs vont pouvoir se relayer. Donc c'est vraiment un relais sur le vélo, sur un seul vélo en fait, pour pouvoir voir différents courts-métrages qui vont être vraiment tournés autour de la protection de la biodiversité et des changements nécessaires dans nos sociétés. C'est vraiment, on va dire, un concept qui est en lien avec le musée, parce que le musée, quand même, est vraiment tourné sur le développement durable, la préservation de l'environnement. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui est en lien avec les objectifs et l'ADN du musée.
Voilà, cette séance de ciné-cyclo prévue ce soir entre 21h et 22h à Nancré, donc dans le Grand Besançon. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Sandrine a testé le béhour. Le béhour, c'est du combat médiéval en armure, 30 à 40 kilos sur le dos, plus l'épée ou le sabre. Un loisir en pleine croissance un peu partout en France. La France qui a même désormais son équipe nationale de béhour. Sandrine a rencontré nos bleus en acier, de retour du Mexique où avaient lieu les championnats du monde. Voici Jeanne et Mélanie en plein entraînement dans leur club parisien.
Elles ont plus de 20 ans de différence d'âge, mais le même regard de guerrière. L'entraînement est rude, elles s'exécutent.
En place pour les parachutistes.
Parachutistes, c'est quoi?
C'est un exercice qui va travailler la sangle abdominolombaire. On démarre sur les fesses, on passe côte flottante de l'autre côté et on remonte sur les fesses sans poser le dos au sol. Prêt?
Youhou!
Ça va, Mélanie?
C'est trop dur, j'en suis encore donné, c'est trop dur.
Et c'est que l'entraînement?
C'est que l'échauffement, ouais. Pour pouvoir après tenir, parce qu'avec tout l'équipement et l'épée, faut pouvoir assumer. Donc du coup, faut y aller. Allez, c'est reparti. Bon,
je vous laisse vous échauffer. On se revoit tout à l'heure?
Si j'arrive vivant jusqu'au bout.
La truffe humide et la fesse basse, allez au boulot! Allez, on se remue! On se remue vite!
Pause pour Jeanne qui retire son casque, elle transpire.
Jeanne, vous avez quel âge?
J'ai bientôt 16 ans.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport complètement...
C'est un exutoire, on se défoule.
Mais n'importe quel sport. Pourquoi le béhour?
Comment dire? Ça paraît très étrange, mais je suis venue là par erreur. À l'origine, ma mère m'avait voulu m'inscrire à l'escrime moderne. Et je suis arrivée le premier jour. On m'a confié un écu, une sorte de bouclier, un casque. On m'a dit, frappe ce gars devant toi.
Vous êtes dit quoi, je suis où?
Oui, au début un peu.
Drôle de hasard aussi pour notre deuxième guerrière.
En fait, un mardi, j'étais en cours juste en dessous et je traînais. Et j'ai découvert les gars le soir qui se tapaient dessus et j'ai eu envie de tester. J'ai mis le casque et une fois qu'on a le casque et qu'on se fait taper dessus, on répond. Donc j'ai continué. J'ai été élevée avec deux garçons aussi, donc peut-être que ça joue.
Voilà, c'est ça, Jeanne. Baisse la pointe vers l'arrière. Oui, voilà.
C'est vraiment très complet, hyper cardio. Il faut avoir une bonne endurance et en même temps, il faut quand même un peu de technique. Faire des fentes, faire des retraites, bouger, ça représente un peu ce que vous voyez dans les films. Et en fait, on se bat même plus que dans les films puisqu'on se bat pour de vrai. Donc c'est vraiment cool.
Et quand vous dites à vos copains, copines de lycée, je fais du BO, première réaction.
Qu'est-ce que c'est que ce sport?
Idem pour les collègues ou les amis de Mélanie.
En général, ils me font répéter, je suis obligée de dire combat médiéval, escrime ancienne et des choses comme ça. Même le médecin qui m'a fait le certificat médical m'a refait répéter deux fois avant que je dise ah, c'est combat en armure, quoi, à l'ancienne, médiévale, tout ça. C'était bon.
À ce moment-là, c'est plutôt prescription de médicaments, quoi.
C'est un peu ça.
Elle est folle.
Elle est folle.
Ils vous font rêver, là, tous les chevaliers.
Il y en a certains, franchement, ils sont beaux. En armure, c'est encore plus beau.
En garde! Prêt! Allez!
Le Béour, donc, dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo, avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Eric.
Le régime d'orage va se généraliser cet après-midi.
Oui, on attend encore une salve d'averses orageuses des Pyrénées au nord de l'Auvergne, de la Bretagne à l'Alsace. Les pluies sont toujours copieuses également. Le nord du pays, quant à lui, est épargné jusqu'aux Hauts-de-France où le ciel est simplement gris, comme dans le sud où le régime d'averses est moins actif. Près de la Méditerranée, vous avez un temps sec et un soleil généreux. Un peu plus loin sur votre dimanche, le ciel sera toujours instable, en particulier sur le sud-ouest du pays et de la Bretagne au nord de l'Île-de-France et jusqu'aux Hauts-de-France.
Et les températures restent de saison.
Oui, ça fait plusieurs jours qu'avec cette goutte froide sur le proche Atlantique, la situation n'évolue pas côté Mercure. Vous pouvez compter entre 16 à 23 degrés pour votre après-midi et jusqu'à 25 en Corse. Demain, les températures seront comprises entre 8 et 12 degrés le matin. Les maximales en très légère hausse atteignent 17 à 22 degrés, localement 22 à 24 sur le sud-est et jusqu'à 25 à 27 degrés en Corse.
Magali Rochereau.
France Inter, 14h, Emmanuel Kérad.
Ce samedi, nous sommes à Saint-Malo, au festival Étonnant Voyageurs, pour une séquence spéciale en extérieur qui va vous faire voyager, et avec Philippe Torreton et Zineb Mekouar en studio.
La librairie francophone, tous les samedis à 14h sur Inter.
Pour trouver le bonheur, suivez-moi en Grèce.
Éric-Emmanuel Schmitt.
Pour vous, j'ai traversé le temps jusqu'au siècle de Périclès. Ensemble, nous marcherons aux abords du Parthénon flambant neuf. Deviserons avec Socrate en personne et partagerons peut-être même sur l'île de Lesbos le lit de la divine Sappho. Un voyage dans le passé? Non. Un voyage là où tout a commencé, aux sources de la lumière et du bonheur.
La lumière du bonheur, le roman événement d'Éric-Emmanuel Schmitt, un livre Albin Michel.
France Inter, partenaire de Hit Me Hard and Soft, le nouvel album de Billie Eilish. Un voyage de 10 titres avec des ballades dont seul Billie Eilish a le secret, des titres tempo plus expérimentaux, parfois électro. Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, un album France Inter.
Merci d'avoir choisi France Inter. 13h22, secret d'info à présent, c'est avec vous Jacques Monin.
Merci Eric Delvaux. Prochain point sur l'info, c'est tout à l'heure à 14h. Et bonjour à tous. Il y a un peu plus de 2 ans, le livre « Les Fossoyeurs, lever le voile sur les pratiques de maltraitance qui avaient cours au sein du groupe Orpea ». Depuis, une nouvelle direction a pris les commandes. Mais quelle est la situation aujourd'hui? Bonjour Laetitia Chérel.
Bonjour Jacques.
Vous avez encore identifié, on va le voir, des situations problématiques. Et puis nous recevrons Constance Villanova. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous venez de publier « Vivre pour les caméras », un livre qui raconte les coulisses peu reluisantes de la télévision. Les réalités.
Secret d'info. Jacques Monin sur France Inter.
C'est un acteur majeur du secteur qui est mis en cause. Parmi les 350 maisons de retraite médicalisées du groupe Orpea en France, celle de Neuilly-sur-Seine est au cœur de la tourmente. Tout y serait rationné, la main-d'œuvre, la nourriture et même les protections contre l'incontinence.
Voilà un extrait d'un reportage de TF1 diffusé en janvier 2022. Le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet vient de sortir. On découvre effaré qu'au sein du groupe Orpea, Laetitia Chirel, il y a des pratiques de maltraitance sur fond de malversations financières.
Oui, et dans la foulée de ces révélations, deux enquêtes commandées par le gouvernement confirment en grande partie ces dysfonctionnements. Plusieurs enquêtes judiciaires sont ouvertes par le parquet de Nanterre et, fait rare pour une entreprise cotée en bourse, deux dirigeants d'Orpea sont placés en détention provisoire pour abus de confiance, escroquerie, blanchiment en bande organisée et corruption privée.
Et dans le même temps, l'action du groupe, elle, va plonger.
Oui, et plonger, Jacques, le mot est faible. Écoutez ce que raconte à ce sujet Daniel Bernard, qui est journaliste au quotidien numérique La Lettre.
L'action était montée très haut, elle était jusqu'à 120 euros, elle est à 80 euros au moment de la publication du livre. Elle perd 7 points en un jour lors de la publication du livre, la cote est suspendue. Et à la suite de ça, au cours des mois qui suivent, elle va descendre jusqu'aux enfers puisqu'elle était à moins de 1 centime d'euro.
Moins de 1 centime l'action, effectivement difficile de tomber plus bas. Et c'est donc dans ce contexte que le groupe va recruter un nouveau directeur.
Oui, il s'agit de Laurent Guillot. C'est un ingénieur de 55 ans qui est diplômé de Polytechnique et des Ponts et Chaussées. Il a plutôt un profil d'industriel. Il a passé 19 ans chez Saint-Gobain, le fleuron de l'industrie du verre.
Après ces 19 années, j'ai décidé de partir du groupe parce que j'étais en lice pour être le dirigeant du groupe et puis c'est pas moi qui ai gagné. J'avais pas tellement suivi, à part dans le journal, j'allais dire, ce qui s'était passé sur Orpea. Et puis après, un jour, un chasseur de tête m'a appelé pour me dire est-ce que ça t'intéresserait? Il y a un challenge important à faire. Évidemment, ma première réaction, c'était de dire mais pourquoi moi? Je viens pas du milieu. Il y a un travail gigantesque.
Et un travail gigantesque qu'il va donc accepter de faire.
Oui, il va relever le défi et il rejoint le groupe 4 mois après la publication du livre Les Fossoyeurs. C'est alors qu'il découvre l'ampleur des dégâts.
Quand j'arrive comme conseiller en mai 22, on n'a pas de quoi payer les salaires de juin 22. On était quasiment 10 milliards de dettes. Donc il y a d'abord un travail financier important à faire. Après, il y a un certain nombre d'enquêtes qui nous ont fait montrer progressivement qu'une partie importante de la direction avait, disons, pris des libertés avec l'éthique, pour le dire pudiquement. Ça veut dire qu'on a fait partir un grand nombre de dirigeants avec lesquels on ne pouvait pas continuer à travailler.
Et un grand nombre de dirigeants, c'est une cinquantaine de membres de la direction tout de même, dont l'ancien directeur général, Yves Lemann, qui touchait un salaire d'1 200 000 euros par an.
Et on ne fait pas que changer certains dirigeants, Laetitia, on va aussi changer le nom du groupe.
Oui, parce que l'image d'Orpea est très dégradée. Alors pour enterrer ce passé sulfureux, le groupe décide de modifier son nom. C'est chose faite en mars de cette année, et le nouveau nom c'est Emeis, qui signifie « nous » en grec, comme on l'entend dans ce clip de présentation.
Voici Emeis. Cela veut dire « nous » en grec. Nous, parce que nous pensons que s'occuper des plus fragiles, c'est l'affaire de nous tous. Car le monde que nous devons construire ne sera exemplaire que si nous sommes tous ensemble.
Ouais, on se croit un petit peu dans un conte de fées, là. Donc l'idée, c'est de faire oublier ce qu'était Orpea.
Oui, c'est bien sûr une affaire de com, mais pas seulement, Jacques. Hein. Il y a aussi un enjeu financier, car depuis la sortie du livre, les EHPAD d'Orpea font fuir. Cette tendance, il faut donc l'inverser, sinon c'est la clé sous la porte, comme l'indique encore Daniel Bernard, le journaliste de La Lettre.
L'idée était de repartir à l'assaut du public, étant entendu que le taux d'occupation était réduit considérablement et que aujourd'hui le niveau actuel ne permet pas de dégager des profits.
Ouais, mais changer de nom, ça ne suffit pas pour tout régler.
Non, bien sûr. L'urgence pour Laurent Guillot, c'est de remobiliser les salariés.
Les deux gros chantiers au départ en arrivant, c'est évidemment de renouer le dialogue avec les équipes, pour leur redonner confiance, leur redonner une direction, donner un sens à l'entreprise. Mais ça a été aussi de recruter une vingtaine, trentaine, quarantaine de collaborateurs dans un délai très très court pour reconstituer la structure RH, communication, directeur opérationnel, quasiment toutes les fonctions du groupe.
Et on va aussi augmenter les salaires, accorder un 13e mois, des tickets restaurants et également renouer avec les syndicats.
Et l'autre urgence, c'est de se désendetter.
Oui, ça c'est la priorité numéro un, car on l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de Laurent Guillot, la dette est colossale, 10 milliards d'euros. La direction se lance donc dans un plan de sauvetage, aidé en cela par certains acteurs privés, mais aussi par la Caisse des dépôts qui, elle, gère de l'argent public.
Nos créanciers ont accepté de transformer une partie de leur dette en capital. Et puis, un certain nombre d'actionnaires, dont la Caisse des dépôts, ont formé un groupement qui est venu apporter au total 1,35 milliard à l'entreprise. L'idée, c'est de vendre une partie de l'actif immobilier pour continuer le désendettement. Et puis après, avoir une situation financière plus soutenable, on va dire.
Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors après avoir vu comment Orpea essaye de se redresser, Laetitia Chérel, alors voyons maintenant comment les choses se passent à l'intérieur des établissements. Il y a 2 ans, par exemple, il était question de rationner la nourriture des pensionnaires.
Alors, selon la quasi-totalité des personnes à qui j'ai parlé, salariés et familles, la situation s'est bien améliorée. Les plats sont meilleurs, les portions, c'est-à-dire les grammages, sont plus fournis. C'est d'ailleurs ce que reconnaît ce chef cuisinier qui n'a pas souhaité dévoiler son identité et dont nous avons fait lire les propos.
Avant, les grammages donnés aux résidents étaient trop bas. Aujourd'hui, ça a augmenté. On est passé de 80 grammes de viande par jour à 100 grammes. On n'hésite pas à redonner des portions aux résidents qui en redemandent. Les plats se sont améliorés. On a aussi une plus grande liberté qu'avant sur les menus.
Donc ça va mieux.
Oui, il y a eu une véritable démarche de la part de la direction. On a mis plus de moyens, explique le directeur général du groupe, Laurent Guillot.
Sur 2 ans, on a augmenté les budgets de 35%. C'est bien plus que l'inflation alimentaire.
Donc les budgets ont augmenté.
Oui, mais quand on regarde dans le détail, ce n'est pas si simple, Jacques. D'abord parce que certains produits, comme les carottes, ont augmenté de 40% l'an dernier, ou encore de 20% pour les produits laitiers et les œufs. Et puis, il y a la loi qu'on appelle Egalim. Vous savez, cette loi qui oblige désormais la restauration collective, donc les cantines des EHPAD, à acheter des produits locaux.
Et c'est pas bien, ça ?
Si, mais ça a un prix, comme l'explique le cuisinier que nous avons interrogé.
On a le droit d'acheter des fruits et des légumes locaux. Ils sont meilleurs, mais ils sont aussi beaucoup plus chers. Par exemple, la plaquette de beurre normale coûte 1,60€ contre 2,20€ pour du bio. Le sauté de bœuf, c'est un quart plus cher quand on prend du label rouge. Donc pour moi, même si on a eu 30% d'augmentation de budget entre l'inflation et le prix du bio, on est revenu à peu près à la situation d'avant.
Donc l'augmentation du budget alimentaire serait à relativiser. Maintenant, il y a 2 ans, Laetitia, on avait aussi reproché à Orpea de maltraiter certains de ses pensionnaires. Alors on en est où aujourd'hui ?
Alors je ne vais pas vous répondre moi-même, je vais vous faire écouter ce qu'a dit Pierre Krolak-Salmon, le nouveau directeur médical d'Emeis. C'était le 27 janvier 2023, une journaliste de BFM l'interroge à ce sujet.
Plus aucun résident n'est maltraité aujourd'hui ?
On peut pas dire ça. On peut pas dire ça parce que il manque encore beaucoup de moyens. Il y a encore un surmenage des équipes. Il y a encore des soignants qui sont à bout.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a encore des résidents maltraités aujourd'hui.
Ouais.
Oui.
Le secteur est en souffrance encore.
Oui, mais ça, Laetitia, c'était il y a un peu plus d'un an. Alors aujourd'hui, c'est toujours le cas.
Alors écoutez ce que m'a dit le directeur général du groupe, Laurent Guillot, lorsque je lui ai reposé la question fin avril.
Je peux pas vous dire que tout est parfait dans mes établissements. Nous n'avons pas des robots comme équipe. Et donc oui, il leur arrive de faire une erreur, de faire un geste brusque. Après, tout ce qu'on a essayé de faire depuis 2 ans, c'est de mettre plus de monde et plus que la moyenne, et de donner les formations à l'éthique, de formation à la bientraitance, pour s'assurer du meilleur travail possible.
Ouais, ton tact, sauf qu'apparemment, il y a encore des points noirs.
Et effectivement, on le voit par exemple avec la question des protections contre la continence. Vous vous souvenez, Jacques, Victor Castanet affirmait que les couches étaient parfois rationnées. Une affirmation que l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, avait relativisée dans son rapport en 2022. Voilà précisément ce qu'on pouvait y lire.
L'IGAS n'a pas observé de système de rationnement des protections, mais de mauvaises pratiques. Par exemple, la mauvaise gestion des stocks conduit à des situations de rupture d'approvisionnement allant d'un week-end à une période de 5 à 7 jours. Cela oblige le personnel à utiliser des protections moins adaptées aux besoins spécifiques des résidents.
Et c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Oui, c'est en tout cas ce que nous a affirmé un salarié du clos de Lauzeray à Ogny dans le Val d'Oise. Nous avons fait lire ses propos.
Du moment qu'on n'a pas écoulé le stock, on ne commande pas. C'est une décision de la direction. Le problème, c'est que la commande met au moins 10 jours pour être validée et livrée. Il peut donc se passer 10 jours où l'on n'a pas de protection adaptée. Alors, ça nous arrive de mettre une couche XL à une personne toute fine qui fait du S. On doit découper la protection, mais ça fuite parfois.
Ah oui, quand même. Et qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus chez Emeis, ex-Orpea, donc ?
Eh bien, on se dit très étonné. Écoutez ce que m'a répondu le patron du groupe, Laurent Guillot.
C'est pas normal, c'est pas la façon dont il faut le faire, c'est pas les instructions que nous avons données. Après, on n'a pas un gendarme ou un contrôleur derrière chaque directrice, directeur d'établissement. Il peut arriver qu'il y ait un dysfonctionnement dans un établissement. Et à ce moment-là, c'est un dysfonctionnement, et puis on regardera la situation particulière que vous nous signalez.
Donc, il s'engage à regarder ce qui se passe. Maintenant, des dysfonctionnements, vous en avez identifié d'autres.
Oui, j'ai trouvé un EHPAD où, tenez-vous bien, on donne plus ou moins de couches aux personnes âgées selon que leur famille vient les voir ou pas. Ça se passe cette fois au Vernet, près de Vichy, dans la résidence Paul Thomas. Écoutez le témoignage de ce salarié dont nous avons aussi fait lire les propos.
On nous dit qu'il faut faire attention à ne pas dépasser le budget couche. La consigne, c'est donc que les résidents qui n'ont pas de visite de leur famille ont droit à seulement deux couches dans la journée. Une le matin et une après le déjeuner, et on fait sauter le change après la sieste. On nous dit que tant que le pipi ne traverse pas le vêtement, on ne change pas la protection avant 19h30. Mais là, ça a forcément débordé. Par contre, ceux qui ont des visites de leur famille ont droit, eux, à trois couches par jour.
Bon, mais ça paraît fou, ça. On vous le confirme chez Emeis ?
Eh bien, voici ce que Laurent Guillaume a dit lorsque je lui en ai parlé.
Ça ne correspond pas au protocole. C'est complètement hors protocole normal. Ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Donc ça, c'est une situation anormale.
Maintenant, des situations anormales, il y en a qui ont été signalées à la direction encore assez récemment.
Oui, en janvier dernier, à Fos-sur-Mer, à la résidence Les Jardins du Mazet, après plusieurs signalements sans effet, une alerte a été déclenchée pour danger grave et imminent pour dénoncer des dysfonctionnements. Voici un extrait de ce signalement.
De nombreux résidents présentent des escarres, des hématomes et des pansements sur les jambes et les bras. Les résidents sont négligés. Leurs ongles de pied sont longs, leurs cheveux sont sales, les hommes ne sont pas rasés. En nettoyant le matelas d'une résidente, je le retourne et je découvre des traces d'urine séchée et des moisissures.
Et ce ne sont là que quelques exemples de ce qui est décrit dans ce document, car il y en a d'autres.
Le protocole diabétique d'un résident n'a pas été mis en place. La préparatrice en pharmacie affirme que les piluliers ne sont pas mis à jour depuis 15 jours. Avec le non-remplacement de certains soignants, on en arrive à avoir parfois seulement un infirmier en journée pour environ 67 résidents.
Donc c'est un tableau plutôt sombre que dresse cette salariée. Et donc, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette alerte ?
Eh bien, dans les jours qui ont suivi, la direction a lancé une enquête interne qui a corroboré les faits signalés. Elle a ensuite formulé une série de recommandations, dont l'embauche d'une infirmière coordinatrice.
Inter, secret d'info.
Bien, alors jusqu'ici, on a parlé de la situation de certains résidents, Laetitia Chérel, mais des directeurs d'EHPAD se trouvent eux aussi parfois en difficulté.
Oui, selon plusieurs témoignages que nous avons recueillis, des directeurs d'EHPAD auraient pour consigne d'augmenter le taux d'occupation de leurs établissements parce qu'ils ne sont pas pleins. Résultat, beaucoup auraient choisi de quitter le groupe. Il manquerait une trentaine de directeurs sur 230 établissements, selon nos informations. Et écoutez ce que m'a raconté ce salarié dont nous avons fait lire les propos.
Dans beaucoup de sites, on n'a plus de directeurs. Ils ont beaucoup de mal à en recruter. Ils ont tellement de pression pour remplir les résidences qu'ils partent d'eux-mêmes, parfois, après un mois d'essai. Ils doivent faire du commercial, aller à l'hôpital pour chercher des gens pour remplir l'EHPAD. Ils font du remplissage et ils prennent des personnes grabataires.
Des personnes grabataires, c'est-à-dire ?
Eh bien, on va chercher des personnes lourdement dépendantes ou d'autres qui n'auraient pas forcément leur place dans un EHPAD. C'est ce que m'a confié cet autre salarié qui travaille, lui, dans la résidence Emeis à Ony dans le Val-d'Oise.
On va chercher des personnes en fin de vie qui devraient être dans des unités de soins palliatifs. Ce sont des personnes qui nécessitent beaucoup de soins et d'attention de la part du personnel. On n'est pas assez nombreux pour s'en occuper. On accueille aussi des personnes qui devraient être dans une vraie unité psychiatrique. Certaines sont très agressives, très violentes. En février, un monsieur a frappé un collègue avec un extincteur. Les familles se sont plaintes. C'est dangereux pour les résidents et pour les salariés.
Et pour les salariés qui, donc, eux aussi, parfois, se retrouvent en difficulté.
Oui, car au-delà de ce qu'on vient d'entendre, le métier de soignant est très difficile. Près de 730 aides-soignants ont ainsi quitté le groupe en 2023. La direction en a bien recruté près de 870, mais cela ne fait au final que 140 personnes de plus, c'est-à-dire un demi-poste par EHPAD. Bref, il semble que la situation soit préoccupante si l'on en croit cet élu syndical dont nous avons aussi fait lire les propos.
Il y a une hémorragie de personnel. Beaucoup de gens partent. C'est propre à notre secteur, c'est vrai. Mais chez nous, il y a d'abord un problème de réputation depuis le scandale. Et puis l'an dernier, il y a eu un gros problème avec un nouveau logiciel de paye qui ne fonctionnait pas. Les CDD n'ont pas touché leur salaire pendant au moins 3 semaines. Et on a perdu beaucoup de vacataires à cause de ça. Ça s'est arrangé, mais ça a été long.
Et pourtant, en dépit de ce qu'on entend, Laetitia, le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de salariés par résident, a quand même augmenté.
Oui, si on se réfère à il y a 2 ans. Il y avait près de 6 salariés pour 10 résidents et on est passé à 8 pour 10 l'an dernier. Mais on est redescendu à un peu plus de 7 cette année. Et le directeur général, Laurent Guyot, estime qu'il ne peut pas aller au-delà.
Dans l'année 2022-2023, j'ai décidé de faire un investissement en disant on va mettre plus de monde pour faire en sorte que les équipes soient bien, pour que les résidents retrouvent confiance, pour que les familles retrouvent confiance. Maintenant, l'entreprise, elle perd de l'argent. Si on trouve que ce n'est pas assez, moi, j'ai aucune difficulté avec ça, mais il faut que la collectivité publique et nous, collectivement, on accepte qu'il y ait un prix qui soit plus élevé, c'est-à-dire des aides publiques plus élevées d'une part, et que les personnes qui mettent leurs parents dans des établissements acceptent de payer plus.
Ouais, sauf qu'en attendant, on l'a vu, dans certains établissements, la situation laisse toujours à désirer.
Oui, parce qu'il y a un autre phénomène dont on n'a pas encore parlé, c'est que très souvent, des CDI qui sont absents ne sont pas remplacés. Et du coup, dans plusieurs EHPAD, comme à Beauvais, à Vichy ou encore à Ony dans le Val-d'Oise, la situation est très tendue, selon ce salarié qui a souhaité rester anonyme.
Aujourd'hui, on a une aide-soignante pour 10 résidents, alors qu'avant 2019, c'était une pour 6. C'est presque 2 fois moins qu'avant. Du coup, tout ne peut pas être fait correctement. Tous les résidents ne sont pas douchés tous les jours. La direction dit qu'il faut 5 à 10 minutes pour les doucher, mais ce n'est pas assez. Alors on a bricolé un planning de douche. Madame A est douchée le lundi et Madame B le mardi.
Et je précise que chez Emeis, on dément que les effectifs aient baissé et on m'a expliqué que certains résidents ne souhaitaient pas être douchés tous les jours. Quoi qu'il en soit, on peut faire le même constat à l'EHPAD du Vernet, dans l'Allier. Là, le manque de personnel a des conséquences sur l'heure du coucher des résidents, selon ce salarié dont nous avons aussi fait lire les propos.
Régulièrement, au lieu d'être 4, on se retrouve à 2 ou 3. Souvent, quand on finit à 20h, on ne les a pas tous couchés, alors on les laisse dans leur fauteuil.
Mais sortir du travail et voir le regard d'un résident qui n'est pas couché, c'est très difficile. C'est l'équipe de nuit, qui est souvent en sous-effectif, deux au lieu de trois, qui est obligée de se débrouiller.
Ouais, difficile de reprendre après ça, mais on va quand même terminer notre état des lieux avec une autre information assez hallucinante, Laetitia Chérel. Vous êtes rendu compte que dans certains établissements, on a recours à de faux contrats.
Oui, alors souvenez-vous Jacques, cette pratique avait déjà été dénoncée en 2022 par l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Ces faux contrats consistent en fait à recruter des personnels en CDD en faisant croire qu'ils remplacent un CDI qui lui n'existe pas, comme l'explique Maître Léa Talric, avocate en droit du travail.
Ce que fait Orpea, c'est qu'ils inventent des salariés pour avoir un contrat qui, en apparence, est licite, mais ce salarié est fictif.
Mais quel intérêt d'embaucher un CDD pour remplacer un CDI qui n'existe pas ?
Eh bien, il faut savoir que les EHPAD reçoivent des financements des ARS, vous savez, les agences régionales de santé, en fonction des effectifs dont ils disposent. L'avocate Léa Talric émet donc l'hypothèse que déclarer des faux contrats pourrait permettre d'obtenir plus de financement public.
Quand Orpea et Meis a recours à des contrats précaires sur des remplacements de contrats permanent qui n'existe pas, on peut légitimement s'interroger sur l'affectation des fonds publics qui sont déclarés comme finançant un contrat en CDI et la destination réelle de ces fonds. On se retrouve avec des EHPAD qui en réalité embauchent moins de CDI que ce qu'ils prétendent auprès de l'ARS pour obtenir des financements, mais avec cet argent, on recourt ponctuellement à des contrats précaires et des CDD.
Et donc, ce système de CDI fantôme, ça continue ?
Eh bien, c'est en tout cas ce qu'affirme Moïse Audio, représentant du personnel Force Ouvrière au sein du groupe.
Il y a toujours des faux contrats. On l'a signalé à l'inspection du travail, à la direction des ressources humaines, mais ça continue. Je l'ai constaté, il y a une salariée qui m'a montré un contrat qu'elle a signé. Elle remplaçait un salarié qui n'est plus dans l'entreprise depuis plusieurs années.
Ouais, alors ça, c'est ce qu'il nous dit, Laetitia. Mais vous avez pu le vérifier, ça ?
Oui, j'ai effectivement pu me procurer une quarantaine de contrats provenant d'EHPAD, d'EMEIS de tous les coins de la France, sur lesquels on trouve parfois d'ailleurs des prénoms et des noms assez cocasses.
C'est-à-dire ?
Eh bien, par exemple, sur un de ces contrats, vous avez quelqu'un dont le prénom est Carence et le nom titulaire, ou encore le prénom offre d'emploi et le nom Pôle emploi.
Oui, effectivement, c'est même plus que cocasse. Et qu'est-ce qu'on vous répond chez EMEIS ?
Eh bien, j'ai montré l'un de ces contrats au directeur général, Laurent Guyot. Je vous propose d'écouter un extrait de notre conversation.
Donc ça, c'est un contrat qui a été signé en janvier 2024. Donc la personne est engagée dans l'attente de l'entrée en service du titulaire de poste. Et la titulaire de poste, son prénom c'est Madame Disponible et son nom de famille c'est Carence Titulaire.
Non mais ça c'est complètement anormal.
Je vais vous montrer ça, ça a été signé, c'est signé par la directrice.
Moi je suis en charge de 1000 établissements. Je vais vérifier que les process sont correctement mis en place pour éviter ce genre de choses qui est anormal.
Comment on peut en arriver là, à ce qu'il y ait des faux contrats
Non, c'est anormal. Donc je vais me saisir des sujets et on va les régler. Après, vous comprenez qu'on est dans une transformation, ça prend du temps, tout n'est pas parfait et on essaye de régler les sujets au fur et à mesure qu'ils se présentent.
Je précise qu'Orpea a déjà été plusieurs fois condamné pour ce type de pratique, que le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire et que, suite à notre entretien fin avril, la direction d'EMEIS, ex-Orpea donc, a demandé à ses directeurs d'en finir avec ce type de contrat. J'en ai pourtant trouvé qui ont été signés il y a quelques jours seulement.
Donc apparemment, le message a encore un peu de mal à passer. Merci en tout cas Laetitia Chérel. Je précise que votre enquête, on peut la lire sur franceinter.fr, mais on peut aussi podcaster cette émission sur l'appli Radio France. Maintenant, restez avec nous. Secret d'info, ça continue. Dans quelques instants, tout autre chose. Vous saurez tout sur les coulisses parfois peu reluisantes de la télé-réalité. I have my sentence now at last, I know just how you felt. I dig my fingers in expecting more than just the skin. Nothing Matters, extrait du tout premier single, du tout premier album du groupe féminin The Last Dinner Party, un groupe qui monte très fort d'ailleurs en Angleterre en ce moment.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Constance Villanova, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Vivre pour les caméras », un livre qui est consacré aux coulisses de la télé-réalité, qui nous raconte comment ces jeunes en recherche de célébrité, de notoriété, sont soumis à une scénarisation permanente de leur enfermement ou de leur vide, de leur néant, je ne sais pas comment dire. Une scénarisation qui cherche systématiquement, dites-vous, le clash donc qui génère systématiquement de la violence. Donc la télé-réalité recherche la violence ou provoque la violence ?
Oui, pour exister dans ces programmes, il faut jouer des coudes et il faut clasher. C'est-à-dire qu'il faut provoquer des disputes très fortes, souvent pour des motifs complètement dérisoires. Il faut crier plus fort que l'autre et donc créer ces fameuses scènes de clash qui vont être reprises et repartagées sur les réseaux sociaux. Il faut créer de la séquence, de l'image. Donc ces candidats-là qui sont devenus des professionnels, puisque ce sont des candidats professionnels, vont perpétuellement rechercher la violence pendant ces émissions. Là pour exister dans les programmes et pour devenir des personnalités emblématiques du milieu et potentiellement signer d'autres contrats avec des boîtes de production et être reconduit dans d'autres programmes.
Mais ce sont les candidats qui provoquent ou qui cherchent ça ou c'est la production qui crée les conditions de ça ?
Alors c'est la télé-réalité, ce qui est intéressant et c'est ce que j'ai cru, enfin ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que c'est un vrai jeu de dupes. En fait, les candidats à partir de 2010 et grâce ou à cause d'une émission qui s'appelle Les Anges de la télé-réalité deviennent des professionnels. Avant, on faisait une télé-réalité.
Donc, ils sont payés.
Déjà, et puis surtout, avant, on faisait une télé-réalité, puis on reprenait sa vie, on participait à l'île de la tentation, et puis on retrouvait son travail alimentaire. Maintenant, être candidat, c'est un métier. On peut passer d'un programme à un autre. Donc, ce sont devenus comme des comédiens professionnels. Ils savent très bien...
Qui ont intégré les codes.
Exactement. Ils savent très bien ce que la boîte de production attend d'eux. Et puis, parallèlement, les boîtes de production, en interne, vont les pousser pendant les tournages à bout. Puis il faut rappeler que souvent le clash mène au harcèlement en fait. Il y a des phénomènes de meute qui se mettent en place avec toujours un candidat qui va être une victime et toute une meute de candidats qui vont s'en prendre à elle ou à lui. Il y a une candidate qui s'appelle Aurélie Preston par exemple qui en 2016 s'est vue jeter son matelas par la fenêtre de la maison dans laquelle avait lieu le tournage. Elle s'est fait menacer par un autre candidat sous les yeux de la production qui n'a rien fait, la production des Anges de la télé-réalité, la grosse équipe à l'époque. On est en 2016 et le CSA a reçu 2000 signalements ce soir-là. En fait, la frontière entre le clash et le harcèlement, elle est très très fine. Donc ces scènes de violence diffusées à l'heure du goûter à la sortie de l'école, elles ont évidemment une influence.
Alors vous racontez qu'il existe aussi des personnes qui mettent en quelque sorte de l'huile sur le feu, sont les nouveaux paparazzi de la télé-réalité, qui sont eux des blogueurs sur Internet, qui écrivent en fait, qui se nourrissent de ce qui se passe sur la télé et qui mettent de l'huile sur le feu.
Les blogueurs, ce sont des barons un peu de la télé-réalité. Ils se comportent un peu comme des mafieux. En fait, ce sont des internautes, souvent très très jeunes, qui arrivent à récupérer des informations sur des tournages. Ces informations, elles leur sont données par des candidats eux-mêmes ou par parfois des membres de la production. Et on assiste à des pressions entre candidats, blogueurs, entre candidats et boîtes de production. C'est la course au scoop et il n'y a pas de limite. Tout est possible. Certains blogueurs se font menacer de mort, d'autres ont fini en garde à vue. C'est une mafia absolument, absolument dingue. Et ce sont en plus des personnalités très fortes qui, je pense, se rêvent eux aussi un peu candidats de télé-réalité.
Alors, il y a autre chose que vous avez identifié au cours de votre enquête, c'est que la télé-réalité maintient et encourage finalement les stéréotypes dominants. Vous dites, par exemple, l'objectif d'une émission de télé-réalité, alors on ne va pas essentialiser non plus, mais c'est de former des couples. Et dans ces couples, l'homme domine la femme.
Oui, alors, je le disais précédemment, pour exister dans un programme, il faut gueuler très fort, mais il faut aussi se mettre en couple. Il y a énormément de candidates qui ont raconté, témoigné, qui ont expliqué que si elles ne faisaient pas couple pendant une aventure, elles étaient évincé par la boîte de production. Donc, les femmes n'ont qu'un objectif, c'est mettre la bague au doigt de l'éternel séducteur et du donjon qu'elles ont en face d'elles. On est sur des corps aussi très stéréotypés, avec des hommes souvent très bodybuildés, tatoués, des femmes qui sont passées par le bistouri très souvent. Et l'idée, c'est de faire couple, puis de se fiancer, de se marier et de faire des enfants. Et en fait, chacune...
Il y a même eu un faux mariage.
Oui, il y a eu un faux mariage dans Secret Story, dans la première saison de Secret Story, ou la deuxième, il me semble. En fait, chaque étape de couple est un nouveau produit audiovisuel pour les boîtes de production et pour les candidats. La grossesse va créer du contenu sur la chaîne YouTube des candidats. Tout est un produit. L'intime, en fait, est un produit. Et la vie de famille permet de générer toujours plus d'argent.
Vous évoquiez la question de la chirurgie. Vous avez tout un chapitre là-dessus aussi. La chirurgie, c'est une quasi-nécessité, ou en tout cas, c'est encouragé par ce type de production ?
Alors, ce n'est pas forcément encouragé par la production. En échangeant avec des candidates, on se rend compte que quand elles se voient à la télé une première fois, elles ne supportent pas leur image et elles vont, pour les prochaines saisons auxquelles elles vont participer, passer par des cliniques. Il y a une banalisation dont je parle dans cet essai. Hein. Moi-même, je me suis habituée à des visages clonés qui se ressemblent tous, à une silhouette inatteignable. Et c'est ça qui est dangereux avec ces programmes qui sont regardés, je le rappelle, surtout par des jeunes femmes, c'est que ces programmes fixent un modèle physique, un modèle de beauté inatteignable. Il y a des dérives. Moi, j'ai pu rencontrer une candidate qui s'appelle Luna Sky et une autre candidate qui s'appelle Emilie Amar et qui voulait se faire agrandir le fessier. Elles ont fait des injections d'acide hyaluronique au niveau du fessier. Elles ont fait des infections gravissimes. L'une d'entre elles, Luna Sky, a été entre la vie et la mort. Elle était en plus hospitalisée aux États-Unis, donc ça lui a coûté très, très, très cher. Elle a été rapatriée en France, puis elle a été blacklistée des boîtes de production. En fait, ça crée des dérives aussi pour les jeunes femmes qui regardent ces programmes, parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens que ces candidates et donc elles vont se tourner vers ce qu'on appelle des fake injectrices, donc des femmes qui parce que c'est souvent des femmes
qu'on trouve sur
les réseaux sociaux et qui pratiquent des injections illégales et sans diplôme.
Alors il y a une autre catégorie de d'émissions de télé-réalité aujourd'hui, ça s'appelle les influenceurs, et c'est vers ça qu'on a évolué, c'est-à-dire des gens qui, depuis leur domicile, en fait, montrent tout de leur vie avec leur téléphone, même sa diarrhée.
Oui, en fait, certains et certaines influenceuses ne font que ça. Je pense à Poupette Kenza, qui est un exemple qui cristallise vraiment tous ces enjeux de mise en scène de soi. C'est la plus suivie sur la plateforme Snapchat. Elle publie plus d'une centaine d'images par jour de vidéos. On la voit tant faire ses courses, que coiffer ses enfants, que parler de ses hémorroïdes, que de parler de sa vie de couple. En fait, on est tous devenus des potentiels candidats. L'exemple que je prends souvent, c'est celui des crying selfies. C'est le fait que de plus en plus de jeunes, désormais, se filment en pleurant et vont le mettre sur les réseaux sociaux. Il y a une injonction à montrer l'intime. Donc, on est tous et toutes devenus candidats de télé-réalité grâce à Instagram.
Merci, Constance Villanova. Alors, je rappelle pour ceux qui voudraient aller plus loin que votre livre s'intitule « Vivre pour les caméras » et je précise qu'il est édité chez Lattès. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Mathias Aléon et Enzo d'Hospital. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain. À suivre, la librairie francophone avec Emmanuel Kérad. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Jacques.
Alors au programme.
Nous sommes au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo avec des auteurs, des marquises, du Liban, du Maroc, du Québec et aussi avec Philippe Torreton.
Allez, on va voyager donc. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Ma chère Chantal, j'ai toujours pensé que vous étiez une artiste dans la démesure, n'est-ce pas ?
Mais détrompez-vous, mon ami, chacun a toutes les vérandas et les pergolas sont faites sur mesure. Elles sont même personnalisables.
Comment cela ? Je ne comprends pas. Je vous parle de vous.
Vous, moi, Akena, plus rien ne compte que le bien-être. Dans les temps 2024, mettez-vous à la page, mon vieux. Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Mince, une fuite, en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical.
Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise.
Et ça, c'est mieux pour la facture.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr.